Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est le podcast dans lequel on va à la rencontre des personnes qui font vivre le monde de la bande dessinée par leur travail, la pop culture. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un format plutôt franco-belge. D'ailleurs, je pense que ce sera hébergé avec nos amis de 9e art slash Bubble pour aborder une bande dessinée qui s'appelle Copenhague, qui est sortie aux éditions d'Argo. Et on a le plaisir d'accueillir l'équipe créative de ce titre, une équipe très prolifique hein, qui a produit déjà de nombreux albums ensemble. Alors on a Anne-Caroline Pandolfo, bonjour.
Bonjour.
J'espère que tu vas bien.
Oui, je vais bien.
Très bien. Et alors, par contre, je vais juste te demander, parce que je veux pas écorcher la façon dont se prononce ton prénom, ton nom de famille, si tu veux bien juste dire bonjour.
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Terkel Risbjerg.
Voilà, Terkel Risbjerg. Très bien. Voilà, je suis très nul là-dedans. Et alors, vu que c'est la première fois, de toute façon, qu'on discute ensemble, je suis un petit peu obligé de passer par les questions les plus basiques. Et j'espère que ça vous ennuiera pas, mais parce que ça fait quand même depuis, je crois, 20 ans maintenant, en fait, que vous travaillez ensemble, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pouvez un petit peu juste m'expliquer? En tout cas, ça fait, c'est vraiment pas le premier album que vous faites. Est-ce que vous pouvez
On s'est rencontrés à Paris tous les deux il y a peut-être 20 ans. Mmh. Et moi, je travaillais dans le dessin animé à Paris. Et Terkel faisait un stage. Il était venu pour 3 mois. Et finalement, il n'est jamais reparti. Voilà, il est resté avec moi. Et on a travaillé pendant 10 ans dans le dessin animé. Et après, on a eu envie de faire des projets plus intimes, qu'on contrôlait plus et qui, sans avoir à gérer de grosses équipes, quoi.
Donc, en fait, c'est plutôt, tu disais tout à l'heure, franco-belge, c'est plutôt franco-danois, en fait, comme projet. Mmh. Ouais. Européen, ça, c'est sûr.
Ouais, et ben justement, qu'est-ce qui vous a un petit peu attiré, parce que tu viens de dire que vous étiez dans l'animation avant, qu'est-ce qui vous attirait dans la bande dessinée, peut-être aussi en tant qu'art, peut-être qu'est-ce que ça permet de faire que l'animation vous permettait pas? Alors j'imagine qu'effectivement, quand vous faites quelque chose juste à deux, c'est vachement plus simple à contrôler aussi, mais peut-être qu'aussi, juste d'un point de vue purement artistique ou de production, il y a des choses qui vous intéressent plus dans ce médium-là?
Ben, c'est vraiment le rapport texte-image. Moi, j'ai fait des études de littérature d'abord, en lettres modernes. J'ai fait des arts décoratifs après. Et donc, j'avais un petit peu ces deux casquettes, ou ces deux attraits, en tout cas, pour le texte et pour l'art plastique. Et donc, la bande dessinée, c'est ça, c'est ce rapport-là. Et le fait de pouvoir travailler avec Terkel, ça, qui est très, très doué en dessin de bande dessinée, ce qui n'était pas mon cas. Moi, je faisais du dessin d'illustration. Ça permet de travailler vraiment à raconter par l'image et à utiliser le texte dans l'image. Enfin, on a une espèce de fusion et de symbiose texte-image entre nous deux. Je crois que c'est ça. La motivation.
C'était quelque chose qui s'est manifesté très rapidement, en fait. Si vous vous en rappelez dès votre première collaboration, c'est quelque chose aussi que vous avez peut-être appris, en fait, au cours des projets, au cours du temps, à maîtriser?
Ben, moi, j'ai fait des études de cinéma, en fait. Donc là, pareil, évidemment, on est dans le texte-image, sauf que c'est de l'image qui bouge et il y a du son aussi. Donc, en bande dessinée, on joue un peu sur autre chose. Donc, avant de venir en France, il y a 20 ans, moi, j'ai quand même publié quelques bandes dessinées au Danemark. Donc, plutôt en format underground, mais des longues histoires quand même. Enfin, je suis un vrai éditeur, mais pas du franco-belge du tout, pour le coup. Et j'avais laissé un peu ça de côté pendant mes études. Et puis, je suis venu en France où j'ai commencé à travailler dans le dessin animé. On s'est rencontrés, mais moi, j'avais toujours cette envie de faire de la bande dessinée parce que dans ce domaine créatif-là, la BD, ça a toujours été... Enfin, c'est un peu mon premier amour. Ça le reste encore aujourd'hui.
C'est quoi? T'en lisais beaucoup quand t'étais plus jeune? C'est quelque chose qui, par rapport au dessin, en fait, qui te plaît? Qu'est-ce que ça apporte, la bande dessinée, en tant qu'art pour toi?
Qu'est-ce que ça apporte?
Au monde, aux gens, en fait. Pourquoi c'est ton premier amour?
Déjà, mon père, il était dessinateur, donc il faisait énormément de livres jeunesse. Et je vivais pas avec lui, mais à chaque fois que je le voyais, il me donnait ses livres, il était très productif. Il a fait de la bande dessinée aussi, donc j'ai eu cette fascination-là pour le dessin, et plus tard pour l'art et pour le cinéma aussi, enfin l'art plastique et la littérature. Enfin, petit à petit, dans mon enfance, en tout cas, c'est venu, tout est pas venu en même temps. J'ai pas eu une grande découverte pour le fait de raconter des histoires ou faire des images. Je pense que j'ai d'abord été happé par le dessin. Et ensuite, ensuite peut-être le cinéma, probablement, le cinéma d'animation, à l'époque, j'aimais beaucoup. Et puis la littérature, c'est venu un peu plus tard. La plastique, j'ai dû être, j'ai été un peu plus âgé avant de découvrir, avant d'aimer aller au musée. Quand j'étais enfant, ma mère, elle me payait pour aller au musée, ce qui paraît complètement absurde parce que, bon, elle était instite. Pour elle, le A avec un grand A, c'est quelque chose de très important. Ça l'était pas du tout pour moi, mais elle voulait me cultiver, évidemment. Moi, j'étais réticent parce que à un certain âge, je préférais rester à la maison avec des Mickey, quoi.
C'est comme ça au Danemark, en fait. On fait les enfants pour...
Oui, et d'ailleurs, plus tard, quand j'étais étudiant à la fac de Copenhague, donc j'étudiais du cinéma là, on est payé aussi par nos mères, mais l'État paye les étudiants là-bas quand on est inscrit à la fac. Donc, bon, je fais pas ça, tout ça pour de l'argent, mais...
Très bien. Ce que je disais un petit peu avant, c'est que c'est pas du tout votre première bande dessinée ensemble, parce qu'on parle donc d'une longue collaboration. Comment ce projet est né chez vous?
Mais alors, Terkel et moi, on vit ensemble aussi. On a des enfants ensemble. Terkel est né au Danemark, donc c'est une ville qu'on visite au moins une fois par an et parfois plus, et qu'on connaît très bien. Et dans plusieurs de nos livres, on a fait référence soit à la littérature scandinave, soit en tout cas à Copenhague ou au Danemark. Et là, on a eu envie d'en faire vraiment un personnage principal. Et puis, je pense que inconsciemment, au moment du Covid, on a tous eu un petit peu peur. Il y a eu le Covid, les attentats, enfin, tout, c'était une période vraiment pas facile. Et on a vu que tout le monde se mettait à apprendre à chanter, à danser, à faire du pain, enfin devenir créatif pour se sortir un petit peu du marasme ambiant. Et j'ai pensé à ce moment-là, et t'imagines qu'est-ce que ce serait si on perdait cette capacité ou si on n'avait pas cette capacité en fait de s'échapper par l'imaginaire. Et ça, plus Copenhague, plus tout ça, ça s'est mélangé. Il y a des connexions qui se sont faites et j'ai eu cette comme une espèce de vision de cette idée d'une sirène morte, une sirène qui existe. Pour tout le monde connaît les sirènes, mais ça n'existe pas. Donc il y a une espèce de petite gymnastique mentale à faire comme ça pour imaginer la mort d'une sirène dans la réalité. Et ça m'a paru être un super point de départ dramatique et même tragique qui pourrait vraiment mettre en émoi tout le pays et nous montrer, enfin en tout cas incarner l'idée de ce que ce serait que de perdre cet émerveillement de l'enfance ou cette capacité à imaginer, quoi. C'était le départ du projet.
Et ensuite, ben alors comment est-ce que ça... Parce qu'en fait, on a ce point de départ, donc la mort de la sirène, on est un peu dans une forme de thriller, parce qu'il y a une enquête qui est menée, mais en même temps, il y a aussi une touche de comédie romantique, on peut dire. Enfin, ça même de drame aussi sur les relations mère-fille. En fait, on brasse pas mal de thématiques ou même de registres de types d'histoires.
Beaucoup de codes, ouais. On a joué avec plein de codes en essayant d'en rire aussi, hein, pour créer des situations comiques. C'est-à-dire qu'on est parti d'un drame et on essaye ensuite d'en sortir par l'humour, par la comédie. Et pour créer des situations comiques, on s'est trouvé souvent à paraphraser un petit peu le polar, la romance à l'américaine où on court après l'avion... la comédie, enfin...
Justement, tout à l'heure, tu disais, enfin, on parlait du fait que ce livre est très européen. Je pense qu'il y a quelque chose à y chercher là aussi, parce que on joue avec ces gens-là, mais on n'est pas dans les genres littéraires, par exemple, comme le thriller, le polar, ou les genres cinématographiques, le western, ou la BD avec des super-héros, qui est des genres très précis et très codifié.
Parce qu'on retrouve des petits codes, mais il n'y a pas un code en particulier.
Exactement.
Qui s'applique.
Et c'est là où j'ai envie de dire c'est un livre très européen, parce que justement, on joue avec ça. On n'a pas envie de se laisser enfermer, parce qu'on a eu une grande liberté de fabrication pendant qu'on le fait. Et aussi par rapport aux lectrices ou lecteurs, on a vraiment envie de faire ce que j'aurais envie, moi, de lire, en fait. Donc, de pas se mettre pas de fermer de porte. Se permettre tout. Tant que on s'amuse, il y a un fond, c'est vraiment ça le moteur pour ce genre de travail. Sinon, en plus, sur 300 pages, on pourrait s'ennuyer si on sentait contraint. Mais de ma part, ça n'a jamais été le cas sur le travail de ce livre.
Et dans votre méthode de travail, justement, quand on fait un bouquin qui fait 300 pages, comment est-ce que vous travaillez en termes de mécanique? C'est-à-dire, est-ce que tout le script est d'abord couché ou est-ce que, vu que vous avez l'habitude de bosser ensemble, vous y allez un peu chapitre après chapitre? Comment est-ce que ça s'organise?
Non, ça dépend un petit peu des projets, hein, mais en gros, j'écris en amont le scénario. Et Tarkan et moi, on se promène tous les matins, une heure et demie, et on discute du projet, en fait. C'est un peu un rituel. Et ça influe aussi sur mes pistes d'écriture. Et quand je suis suffisamment avancée, alors on commence à faire ensemble la recherche de personnages. Et là, on lance un storyboard. Et ensemble, donc où on construit toute la bande dessinée en brouillon, en fait. On fait un brouillon des 300 pages et ça nous permet de... C'est vraiment notre outil de travail. Ça nous permet d'échanger, on y va avec les ciseaux, on coupe, c'est un puzzle et on essaye de contrôler le rythme. Par exemple, là, il y a beaucoup de scènes, ça court tout le temps, ils courent et se poursuivent, etc. Donc, de temps en temps, des choses sont dites et il faut qu'on donne le temps de les digérer. Donc, on met des scènes de respiration, des scènes plus lentes, plus graphiques, etc. Tout ça, c'est un travail qu'on fait en amont sur le storyboard. Et moi, je continue à écrire pendant qu'on fait le storyboard et que Terkel le finalise, finalement. Et souvent, les personnages aussi arrivent de plus en plus, vivent de plus en plus et provoquent de nouvelles scènes. Et donc, après, il faut revenir en arrière pour que ce soit cohérent, etc. Et c'est seulement quand ça, c'est fait et qu'on est satisfait tous les deux que Terkel va vraiment... Là, tu peux prendre...
Oui, faire des dessins un peu plus jolis, entre guillemets, parce que le chemin de fer qu'on fait d'abord, c'est fait avec des stylos Bic, avec de l'encre. Enfin, c'est beaucoup plus brouillon, quoi. Et c'est ça l'idée, ça nous donne un outil, nous permet de comprendre l'histoire et tout contrôler. Et là, c'est un grand avantage pour nous d'avoir cette liberté, parce que si on était pré-publié, par exemple, dans les mensuels, comme ça se faisait beaucoup dans le temps, et encore aujourd'hui, on livre 7 ou 10 ou 12 pages tous les mois, sans avoir une visibilité suffisante pour savoir où on va. Alors que nous, au départ de ce projet, on ne savait pas que ça allait faire 250 ou 300 ou 350 pages. Donc, c'est vraiment l'histoire et les personnages qui nous ont ramenés là. Et pareil pour le format plus typique de bande dessinée sur 48 pages. Quand c'est le cas, on a des petites bandes comme ça et il faut qu'il y ait beaucoup de choses racontées sur chaque page parce que sur 48 pages, on peut pas aller au-delà. Alors que... Et comme dans Tintin, par exemple, chaque page termine avec un cliffhanger ou une blague. C'est systématique, ça marche très bien, mais c'est des histoires relativement courtes. Là, on peut vraiment se laisser aller, donc ça donne une liberté de temps, je pense, et de rythme et de contrôle en même temps.
Comment est-ce que tu imagines les personnages quand vous avez votre idée de départ? Comment est-ce qu'on construit un personnage? C'est-à-dire comment un Anna, en fait, elle prend forme? Comment Tig, il prend forme aussi? C'est juste des indications d'Anne-Caroline ou tu laisses aussi juste tu brainstormes ou tu dessines vraiment un peu de façon peut-être même très empirique en fait?
C'est très variable en fait d'un livre à un autre, même d'un personnage à un autre, parce que souvent on dessine ensemble, souvent je fais des propositions, il peut se passer des mois, il peut se passer j'exagère 5 minutes, enfin des fois c'est bon tout de suite, des fois pas du tout. Souvent, Anne-Caroline, elle dessine aussi. Souvent, elle me donne ou même ensemble, on parle des personnages, des personnes qu'on connaît ou des acteurs, etc. Donc, ça, c'est vraiment, sur des histoires comme on en fait, il y a très souvent beaucoup de personnages secondaires, ils sont pas forcément des noms, mais il faut qu'ils soient reconnaissables tous à chaque fois qu'ils portent quelque chose de particulier. Ce qu'on ramène avec la couleur, mais aussi avec le forme, le volume, la forme de la tête, etc. Dans le sens aller dans les ce qu'on appelle le gros nez ou des archétypes trop déjà vus, on a quand même envie que ce soit qui c'est chacun sa personnalité. Donc c'est un long travail de faire en sorte à ce que chacun se démarque visuellement de l'autre, mais aussi il y a aussi le fait justement de faire déjà toute l'histoire sur 300 pages, de l'avoir dessinée une fois avant de redessiner pour de vrai. Ça fait aussi que les personnages peuvent mûrir en quelque sorte, enfin, peuvent changer, devenir autre chose et s'améliorer et surtout se préciser tout au long de ce travail. Et après, quand je recommence l'ancrage sur du beau papier avec des vrais outils nobles, etc., là, normalement, au mieux, et je pense que c'est le cas dans Copenhague, là, je sais à quoi ils ressemblent ces personnages, je sais comment ils bougent, je connais leur poids, leur volume, etc.
Donc, ce que tu disais avant, c'est qu'il y a quand même une partie, parfois, où on se laisse surprendre par l'histoire qu'on est en train de raconter ou par ce que les personnages vivent en eux-mêmes. Et ça a été le cas, en fait, sur Copenhague aussi, d'avoir des directions, des sous-intrigues, peut-être, qui apparaissaient pas au départ.
Et là, il parle de la recherche de personnages, mais parfois, on les imagine et ils évoluent vraiment en fonction des scènes. Et il y a un moment donné où on les a vraiment dans les doigts. Et là, on a envie de s'amuser avec et on regrette souvent les premières scènes où le personnage n'est pas encore assez présent, pas assez vivant. Donc, on revient en arrière et c'est vrai qu'on dit que les personnages ont une vie propre, mais ils ont une vie propre. Ils nous entraînent vraiment. À un moment donné, quand ils sont bien, ils entraînent vraiment l'histoire, ouais.
Alors, est-ce que c'est dur de leur dire au revoir quand...
C'est super dur de leur dire au revoir. À chaque fois, on est complètement frustré à la fin d'un album quand on a des personnages auxquels on s'est attaché, comme les derniers, là. Et à chaque fois, je pense, on envisage de faire la suite. Mmh. Enfin, on se dit, il faudrait faire la suite. Et puis, on est parti sur un autre projet, puis on va plus loin et ça se fait pas. Là, on l'a sérieusement envisagé sur celui-là. On est sur un autre projet maintenant. Mais on aimerait bien les retrouver. En plus, à la fin, je ne vais pas divulgâcher, mais y a une ouverture possible pour continuer.
Qui pourrait donner une suite à ces aventures.
Ouais.
J'avais une autre question d'un point de vue du dessin, peut-être que ça se travaille aussi sur le script, c'est qu'on a quand même pas mal de scènes muettes, notamment on ouvre sur une longue séquence de fanfare dans Copenhague, et même toute cette séquence d'ouverture, en fait, a beau ne pas avoir de dialogue, ça se voit, alors que ce soit dans la composition ou dans ce qui est montré, en fait, que c'est très bruyant, en fait, sa vie, c'est une scène qui vit énormément, et à l'inverse, on a d'autres scènes qui là aussi sont sans dialogue et qui, par contre, laissent complètement une impression de calme. Et je veux savoir, j'imagine que vous le travaillez, c'est aussi, en fait, cette façon de faire du bruit ou du silence dans les planches de BD. Je veux savoir, comment vous travaillez ça?
Oui, complètement. Ça, c'est très conscient aussi. Et ça, c'est quelque chose qui fait que la bande dessinée, c'est très, c'est plein de défis, en fait. Parce que, justement, on n'a pas le temps. C'est-à-dire, au cinéma, le réalisateur ou la réalisatrice contrôle complètement le temps de, ouais, on peut regarder en arrière sur un DVD ou si on regarde sur YouTube, mais
le
temps, en principe, est contrôlé. Le temps de lecture, on peut jamais savoir le temps que les gens passent sur telle ou telle image. Et pareil, il y a une contrainte aussi du fait qu'on n'a pas de son. Donc, pour moi, c'est pas du tout une média pauvre. La bande dessinée, par contre, c'est une manière de raconter qui est plein de défis. Il y a plein de choses à contourner tout le temps pour réussir, comment dire, on cherche pas à être réaliste à tout prix, mais pour donner vie aux personnages et à leur décor et à l'atmosphère, il y a toujours des manières on est obligé d'essayer de faire croire aux gens qu'ils vivent, alors que c'est de l'encre sur, parce que tout le monde sait, c'est de l'encre sur du papier.
Comme parfois sur les langues étrangères, quand on parle une langue étrangère et qu'on ne sait pas comment dire littéralement quelque chose qu'on a dans la tête, et si t'es un bon prof, il va te dire dis-le autrement. Et la bande dessinée, ça, c'est un peu comme ça. On a besoin d'avoir du son, il faut trouver une astuce pour le dire autrement, pour dire le son autrement que par le son. On a utilisé aussi le son avec l'accent de tu.
Ouais, je voulais venir sur les, sur la façon dont ils parlent, on se le dit. Alors moi, je suis jamais au Danemark et je sais pas comment ça se parle, mais quand on lit ces dialogues, effectivement, moi, je me le lisais avec un accent qui était sûrement plus allemand ou belge, quoi, mais on sent qu'il y a une façon différente de prononcer. Et d'ailleurs, même j'imagine qu'il y a une version où les dialogues en danois restent en danois, parce que il y a des notes de traduction dedans.
C'était un peu comique parce que c'est un effet de comique, ouais. D'accord, parce qu'en réalité, c'est écrit vraiment en français.
Ah, ok, bon.
On s'est dit, on aurait pu faire parler les Danois tout le temps en danois, mais ça aurait été un petit peu fatigant quand même pour le lecteur. Donc, comme on voulait que l'histoire soit fluide et entraînante et que ça aille vite, etc., on les a fait parler français. Ça va être compliqué à traduire en danois, d'ailleurs, parce que c'est vendu au Danemark. Ouais,
c'est-à-dire, dans l'ensemble du livre, il y a peut-être 3 astérisques en bas de page. Ouais. C'est pour rigoler. Si on a dû faire tout en danois...
Il y a des gens très crédules comme moi qui peuvent le croire.
5 astérisques sur chaque page, c'est insupportable à lire. Enfin, ça le serait.
Mais justement, parce qu'il y a aussi même cette touche un peu de, d'absurde, j'ai trouvé à plusieurs égards. Enfin, parce que même si on parle quand même effectivement de la mort d'une chimère, enfin d'une créature qui n'existe pas, on a aussi ben, parfois des animaux qui se mettent à parler. Et ça aussi, ben, c'est pour amorcer encore plus de décalage avec notre monde réel. C'est une touche de
ouais,
poésie.
Ouais, c'est aussi, enfin, c'est pour plusieurs raisons, je pense, mais parce que la grosse thématique du livre, c'est l'enfance, l'émerveillement de l'enfance qu'on a joué là-dessus un peu dans toutes les scènes. Donc les animaux parlent, on a les vieilles personnes qui sont un peu timbrées comme ça. Les codes avec lesquels on s'amuse, les vélos, enfin tout est l'occasion de jouer en fait.
Très bien. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir accordé ce petit temps en fait pour discuter autour de Copenhague. Et ben pour celles et ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que c'est tout simplement disponible en librairie aux éditions d'Argo. Et puis ben vous êtes a priori déjà au travail sur le prochain album.
Oui.
Dont vous ne pouvez rien dire évidemment pour le moment. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, au revoir.
Merci. À toi.
Merci.